Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. À la mosquée Mariam, c'est une voix de femme qui appelle à la prière, celle de Sherine Kankan. À 41 ans, cette islamologue danoise est la quatrième femme imam du pays et elle dirige avec une autre collègue depuis février dernier la première mosquée totalement féminine de Scandinavie. Pour ces deux initiatrices, il s'agit de se démarquer d'un islam conservateur et patriarcal. Frédéric Lebel est allé à leur rencontre.
La Mariam Mosque ne ressemble à aucune autre mosquée bien ancrée au cœur de Copenhague. Au premier étage, elle fait plutôt penser à un grand appartement cosy au design scandinave où de grands canapés jouxtent la salle de prière. Un rendez-vous nous a été donné un vendredi par l'imam Sherine Kankan, danoise, syrienne par son père, finlandaise par sa mère. Après avoir étudié la sociologie, la théologie et la psychologie, elle veut aujourd'hui replacer les femmes au centre de la religion.
Aujourd'hui, durant mon sermon, j'ai parlé d'Aïcha et Salama, qui étaient les femmes du prophète Mahomet. Toutes les deux conduisaient les prières dans la première mosquée de l'histoire, celle du prophète Mahomet. Donc le fait d'avoir des femmes imams, ce n'est vraiment pas un nouveau phénomène. Cela fait partie de l'histoire musulmane. Et on retrouve cela en Chine depuis le 19e siècle, aujourd'hui au Canada, à New York, Los Angeles, en Allemagne, Belgique, en Afrique du Sud. Ça gagne du terrain.
So it's spreading.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Voilà presque 15 ans que cette jolie mère de 5 enfants travaille sur ce projet. Adepte du soufisme, l'aile la plus progressiste de l'islam, elle entend bien défier le conservatisme de ses alter-égos masculins.
Il y a un grand décalage entre la jeune génération de musulmans et ces imams qui nous viennent de l'étranger. L'imam n'est pas seulement celui qui conduit la prière, il doit aussi être un excellent guide spirituel. Personnellement, j'ai fait des études de sociologie et de théologie sur l'islam. Et je suis en troisième année d'études pour être psychothérapeute. Les femmes peuvent avoir des problèmes de dépression postpartum, de deuil ou de grossesse, ou elles peuvent vouloir parler de questions liées à la sexualité, au couple, à la violence mentale ou physique durant un divorce. Il y a tant de sujets délicats que les femmes préfèrent aborder avec une femme imam.
Dans la grande pièce, des gâteaux, du café traînent sur les tables en bois. Fatima est opticienne, danoise d'origine somalie. Elle dit avoir enfin trouvé un lieu où on la comprend.
Sherine est pour moi la preuve que les femmes ont leur mot à dire, que j'ai le droit d'avoir une opinion. Et puis c'est une femme comme moi, c'est une mère comme moi, c'est une sœur. Je peux m'identifier à elle, me voir en elle, c'est un modèle. Et je peux partager avec elle mes difficultés.
En semaine, la mosquée n'est pas exclusivement réservée aux femmes. On y trouve aussi beaucoup d'hommes qui viennent discuter, préparer leur mariage ou même régler un divorce. Et sur ce point, la Mariam Mosque propose des contrats très différents des autres mosquées.
Dans le cas d'un divorce, la femme a les mêmes droits concernant la garde des enfants qu'un homme. Et s'il y a des cas de violence physique, le mariage n'est plus valable. Voilà ce qu'on trouve en préambule dans nos contrats de mariage. Et les maris ne pourront s'y soustraire car ils ont signé. Le problème, c'est qu'au Danemark, une seule mosquée délivre ce type de contrat. Donc il va falloir rencontrer et convaincre les autres imams de donner au moins aux femmes le pouvoir de divorcer.
Des points essentiels pour toutes ces jeunes femmes, professionnelles, indépendantes et croyantes qui ne veulent rien renier, comme Fatima.
Oui, je suis féministe, je suis musulmane et féministe, je suis une féministe musulmane. Ce qui veut dire que tout le monde doit avoir les mêmes droits. Et j'ai le sentiment que j'ai toujours perçu l'islam comme ça. Ça n'est pas nouveau, mais c'est sans doute quelque chose pour lequel il va falloir que je me batte dans ma propre religion.
Quand on parle d'islam et de féminisme, la question du foulard n'est jamais loin. Pas de dogme. À la Mariam Mosque, chacune reste libre. Sherine Kankan porte un voile, seulement pour la prière. Mais dans la rue, elle découvre ses longs cheveux blonds. Sadia porte le voile également par intermittence.
C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions religieuses. Dans le christianisme,
l'islamisme, le judaïsme, dès que vous entrez dans la sphère spirituelle, la prière, vous mettez quelque chose sur votre tête, un voile, un chapeau pour concentrer les énergies. Moi, ça me permet de me concentrer. Personnellement, j'ai choisi de ne pas porter le voile pour plein de raisons, mais je crois que c'est un choix que chaque femme doit faire individuellement.
Pas facile d'être une femme progressiste et militante en ces temps de radicalisme et d'islamophobie, mais c'est peut-être justement le bon moment pour Shireen Kankan.
On peut vraiment montrer une nouvelle image de l'islam et lutter contre l'islamophobie de plus en plus forte au Danemark, en Europe et dans le reste du monde. C'est difficile de maintenir un discours sur les femmes musulmanes opprimées et sur la religion musulmane qui les opprime si vous avez devant vous une femme imam qui fait l'appel à la prière et délivre un sermon. Je crois que c'est très important.
I think that's very important.
Hi.
Salam.
Salam.
Pour l'instant, cette jeune imam dit n'avoir reçu aucune menace, même si elle rencontre des oppositions modérées à son projet. Reste la légitimité qui dépendra du nombre de fidèles qui répondront à son appel à la prière.
La ilaha illallah.
Des canaux pneumatiques orange suspendus à la façade du palais Strozzi à Florence. C'est une installation de l'artiste chinois Ai Weiwei pour dénoncer le calvaire des migrants. L'installation fait partie de l'exposition Ai Weiwei Libéraux. La performance attire l'attention sur le drame qui se poursuit en Méditerranée. Mathilde Ouvillain.
22 canaux de sauvetage orange encadrent depuis fin septembre les fenêtres du prestigieux Palazzo Strozzi, chef-d'œuvre de la Renaissance, en plein centre de Florence. Symbole de la tragédie des réfugiés qui risquent leur vie sur des embarcations de fortune en Méditerranée, symbole donc sans équivoque, choisi par l'artiste dissident chinois Ai Weiwei pour lancer un message à l'Europe et au monde. S'il a choisi Florence pour cette exposition, la plus grande rétrospective à ce jour de son travail, c'est parce que, dit-il, l'Italie est le pays qui accueille le mieux les réfugiés. Jamais elle ne les rejette, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres nations, dit-il. Et comme toujours, le travail d'Ai Weiwei fait couler beaucoup d'encre. Le relooking temporaire du palais Strozzi n'a pas manqué d'alimenter la polémique. Sur les réseaux sociaux, beaucoup dénoncent l'horreur, le vandalisme, l'affront esthétique ou encore l'attaque idéologique à l'un des plus beaux édifices du monde. L'artiste, habitué des provocations, avoue qu'il ne s'attendait pas à de telles critiques, mais il s'en accommode. C'est très bien que cela fasse parler, estime-t-il. En février à Berlin, Ai Weiwei avait déjà évoqué le drame des migrants. Il avait recouvert les colonnes de la Konzerthaus de plus de 14 000 gilets de sauvetage orange récupérés sur l'île grecque de Lesbos. Ces dernières années, il a visité des dizaines de camps de réfugiés en Grèce, en Turquie, en Syrie, en Israël ou dans la bande de Gaza. Pour Ai Weiwei, son œuvre est un hommage aux héros d'aujourd'hui, ceux qui se battent pour leur liberté.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors les voyages forment la jeunesse, dit l'adage, et la jeunesse européenne en a bien besoin. Vivement attaquée depuis le Brexit du Royaume-Uni, abîmé par le scandale de l'ex-président José Manuel Barroso, qui est parti chez Goldman Sachs, l'Union européenne est à la recherche d'idées pour reconquérir le cœur des jeunes. Voilà pourquoi, Eve, des eurodéputés allemands ont fait une proposition.
Comment donner aux jeunes l'envie et les moyens surtout de forger leur identité européenne, leur permettre de partir à la découverte de ses voisins en toute autonomie, en leur permettant de parcourir le territoire européen, bien sûr. Cette idée qui est au cœur du projet européen revient au centre des préoccupations des élus, sur fond de montée des nationalismes un peu partout en Europe et de désintérêt des jeunes pour la chose européenne. La semaine dernière, des députés européens ont donc défendu l'idée d'un pass Interrail offert à tous les jeunes européens qui atteignent l'âge de la majorité, 18 ans.
Oui, voilà, un nouveau rite de passage à l'âge adulte en quelque sorte.
Oui, et surtout un rite qui concerne tous les jeunes européens, pas seulement les étudiants issus des classes moyennes ou supérieures bien informées, comme le programme Erasmus, qui peine encore à recruter parmi les jeunes issus des milieux les plus défavorisés. Interrail, c'est déjà une institution, un pass qui permet de parcourir jusqu'à 30 pays sur le continent européen, en train, pour une somme comprise entre 170 et 400 euros en fonction du nombre de jours de voyage sur une durée globale de 15 jours ou d'un mois.
Alors, c'est-à-dire, vous pouvez préciser le principe, Eve ?
Mais imaginez que vous désirez partir, par exemple, à la découverte des pays de l'Est pendant une quinzaine de jours pour 170 euros. Vous pouvez effectuer 5 trajets pour passer d'un pays à l'autre ou au sein du même pays pour visiter différentes villes. La formule est déjà culte et on ne compte plus les blogs et les articles consacrés aux voyages de ces jeunes aventuriers passés par l'expérience. Les petits malins listent même leurs conseils. Il faut prendre des billets de train de nuit pour économiser les auberges de jeunesse et réserver ses trajets à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tous soulignent l'expérience incomparable qui les a fait grandir et les a rapprochés des autres Européens rencontrés pendant leur voyage.
Alors cette mesure aurait quand même un coût énorme.
Oui, un coût à supporter par l'Union européenne et cela fait grincer des dents à Bruxelles, vous l'imaginez bien. Chaque année, près de 5 millions d'Européens deviennent majeurs, ont 18 ans. Le coût de cette initiative représenterait donc annuellement près de 1,7% du budget total de l'UE, soit 2,4 milliards d'euros. Et 2 milliards d'euros, c'est déjà le montant que la Commission européenne a bien voulu mettre de côté dans le budget cette année pour apporter un petit coup de pouce à la garantie jeunesse, le programme qui lutte contre le chômage des jeunes et que certains trouvent déjà sous-financé, qui, si le pass Interrail gratuit voyait le jour, ne pourra donc pas être doublé.
Oui, dans ce contexte, certains eurodéputés parlent de mesures gadgets.
Oui, quand on sait que 20% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage en Europe, dont le double en Espagne et en Grèce, on se dit qu'offrir aux jeunes une espèce de super billet de train pour partir en vacances semble ironique au mieux, offensant carrément au pire, et que ceux qui partiront seront ceux qui auront les moyens de financer ce voyage. Bref, la mesure est encore loin d'être adoptée, même si elle fait déjà rêver les jeunes sur les réseaux sociaux.
Merci Eve Minot, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
To the core of galaxies, distorted city crates.
On quitte l'Europe pour jeter un œil aux étoiles. Dans le nord-est de l'Espagne, l'astronome Javier Senaro dirige un observatoire équipé d'un télescope révolutionnaire, le seul en Europe conçu pour observer l'énergie obscure qui est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Portrait signé François Musso.
Le ciel, il l'a observé des dizaines, des centaines de fois au cours de son existence. Il l'a observé depuis de nombreux points du globe, en Floride ou en Californie, là où il a fini ses études d'astronome spécialisé dans l'énergie obscure. Il l'a fait aussi depuis l'île de la Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, près de l'Afrique. Mais ce que Javier Senaro, un brin élégant et mince, n'imaginait pas, c'est qu'un jour, il allait devenir le responsable d'un projet fou sur ses terres. Ce quadra qui adore le sport est né à Saragosse, en Aragon, et c'est tout près de là, à Javalambre, à 2000 mètres d'altitude, qu'il passe désormais ses heures et ses journées. C'est là, dans le centre de physique du cosmos de l'Aragon, que pendant 7 ans, il aura la charge difficile et stimulante, grâce au très performant télescope T250, de tracer une carte spatiale de tout l'hémisphère nord en 3 dimensions et devant permettre d'observer quelques 500 millions d'objets. Avec ces données, j'espère connaître le contenu des étoiles des galaxies et comment ce contenu s'est peu à peu modifié tout au long de l'histoire de l'univers. Javier Senaro prononce ses paroles avec calme, mais aussi avec enthousiasme, et il a bon espoir. Avec Hawaï dans le Pacifique et le nord du Chili, le Pico du Buitre, le pic du vautour, où adolescent il venait escalader, est considéré comme un des points les plus purs du globe pour observer le ciel. Passionné de recherche, Senaro sait que des dizaines de chercheurs attendent avec impatience le résultat de ses travaux pour savoir notamment si oui ou non son équipe sera capable de visualiser la 9e planète cachée du système solaire.
Allez, on quitte l'univers, un retour sur la terre ferme. Alors que le mondial de l'automobile bat son plein en ce moment à Paris, un autre salon essaie de promouvoir d'autres modes de déplacement générant moins de trafic et de pollution. De nouvelles solutions regroupées sous un même toit, celui de la Grande Halle de la Villette. Laurent Berthaud s'est rendu à ce premier salon autonomie.
Initié par l'entrepreneur sud-africain Ross Douglas, Autonomie veut s'imposer comme la nouvelle référence internationale de la mobilité, avec 22 pays représentés et une philosophie que résume Maureen Noël, directrice déléguée.
On n'est pas contre la voiture, mais en revanche, on pense que l'autosolisme, une personne dans une voiture en ville, n'est plus une solution. Donc nos voitures, elles doivent être électriques, elles doivent être partagées, elles doivent être connectées pour fluidifier le trafic, et demain, elles seront autonomes. Ensuite, il faut privilégier la multimodalité, donc à la fois avoir des gens qui se déplacent dans des véhicules 4 roues, mais dans des 2 roues, dans des 3 roues, dans des 1 roue, à pied, à vélo, en covoiturage. Il y a un nombre de solutions assez impressionnant qui existent déjà aujourd'hui et que les gens ne connaissent pas forcément.
Comme par exemple les scooters électriques partagés. Deux sociétés, elles les proposent désormais, dont Mober, qui expose un modèle fortement inspiré des années 60. Le contexte est mûr, estime Emmanuel Remise, cofondateur.
Il y a un vrai besoin, à Paris pour des déplacements en deux roues, pour éviter évidemment les bouchons, etc. Et une éducation aussi de la population qui s'est faite au mode de transport partagé, notamment avec Autolib, Vélib et ce genre d'initiative. Donc on pense que c'est le bon moment pour du scooter électrique en libre-service à Paris.
Rétrofuturiste, ce pourrait être le mot d'ordre de nombreux modèles, comme ce vélo électrique haute couture proposé par Luca Agnelli, avec un réservoir rappelant les motos des années 50 et renfermant la batterie.
La philosophie est principalement celle d'avoir un produit élégant.
Un produit élégant vendu 8 900 €. Le dernier client a été Karl Lagerfeld. Beaucoup moins design, mais sans doute plus révolutionnaire, cette remorque porte-palette. La palette, unité de logistique normalisée à l'échelle mondiale. Charles Levillain de Flexi-Modal.
On va pouvoir lever des palettes jusqu'à 180 kg de charge pour les livrer au plus près des commerces, même dans les galeries commerciales, puisque le produit peut être utilisé à la fois attelé à un vélo, mais aussi en position manuelle par un piéton. Avec plus de capacité de roulage, par exemple sur les pavés ou autres, on a des roues de vélo et non des petites roues. On roule plus facilement dans les centres anciens, souvent pavés du coup. Des industriels sont aussi intéressés par ce produit-là pour déplacer des palettes sur des sites industriels qui peuvent être grands.
Enfin, parmi bien d'autres innovations, une ne laisse pas indifférent: un prolongateur d'autonomie pour véhicules électriques, en clair, un groupe électrogène attelé derrière la voiture. On pourrait le louer chaque fois qu'on veut partir loin, sans crainte de tomber en panne d'électricité. Prototype présenté par Jean-Baptiste Segard, fondateur de IP Tender.
Effectivement, il est très paradoxal de dire on va accrocher un moteur essence derrière une voiture électrique, c'est même choquant à la limite. Mais réfléchissons 5 minutes. À cause de ces quelques jours dans l'année, aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent probablement roulent en voiture essence. Et alors on roule à l'essence sur 20 km tous les jours. C'est complètement crétin. Alors faisons l'inverse. Roulons à l'électrique 20 km tous les jours. Et quelques fois dans l'année, on fait 500 km à l'essence.
Le marché des nouvelles mobilités est prometteur. Il devrait bondir $1,5 milliard à $25 milliards au cours de la prochaine décennie.
À partir de jeudi, les plus beaux édifices de Prague seront habillés de lumière, à l'instar de la Fête des Lumières de Lyon tous les mois de décembre. Le festival Signal s'est forgé en 4 ans une réputation au-delà des frontières tchèques. Alexis Rosenzweig.
Une jungle de formes géométriques bariolées sur un des palais baroques de la capitale tchèque, des géants gonflables lumineux installés dans plusieurs parcs et des lucioles au laser dans un jardin surplombant la rivière Vltava. Ce sont quelques-uns des points forts de cette édition 2016 du festival Signal, un festival qui fera une nouvelle fois la part belle au vidéo mapping, ces fresques lumineuses en français qui viennent sublimer grâce à des projections colorées les façades de certaines des plus belles églises et bâtisses de la ville. Les 3 premières années ont permis au festival Signal de se faire une place de choix parmi les événements comparables en Europe. Le quotidien britannique The Guardian le classe parmi les 10 plus importants rendez-vous du genre, aux côtés du Amsterdam Light Festival et de la Fête des Lumières de Lyon. Avant d'organiser cet événement, qui attire déjà plusieurs centaines de milliers de spectateurs, Martin Pochta avait contribué à illuminer la célèbre horloge astronomique sur la place de la Vieille Ville. Quelques années plus tard, il est désormais à la tête de l'organisation qui rassemble les principaux festivals du genre dans le monde. La 4e édition de Signal se déroule jusqu'à dimanche soir, avec cette année des invités étrangers renommés dans ce milieu d'artistes programmeurs, dont l'Américain Zachary Lieberman ou les membres du studio russe Tundra. Pour la première fois, il y aura également un programme spécial pour les enfants, et hormis les projections du soir dans un des bâtiments de la ville, tous ces jeux de lumière sont à voir gratuitement. L'autre bonne nouvelle, c'est que la pluie pourrait cesser de tomber sur Prague, au moins provisoirement, pour pouvoir en profiter pleinement.
Accent, c'est déjà fini. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.